L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'actualité mayonnaise, l'AJT du local. Vous êtes bien évidemment sur l'autre radio. On va essayer de retrouver Claire, on a des petits soucis techniques, bah oui ça arrive, c'est les aléas du direct. On essaiera de retrouver Claire un petit peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui, on va vous parler donc du théâtre de Goron qui a été aidé par le loto du patrimoine à hauteur de 36 000 euros. C'est le seul théâtre art déco de la région encore en bon état, vous l'entendrez. Et puis on va parler aussi des restaurants qui, on le sait depuis la fin de semaine dernière, ne rouvriront pas avant mi-février. Comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie par la profession et comment les restaurateurs se préparent pour les prochaines semaines, les prochains mois? Réponse en milieu d'émission. Et puis aujourd'hui, vous êtes chanceux. Pas facile à dire, hein. Vous êtes chanceux, chers auditeurs, puisqu'il y a deux chroniques pour le prix d'une. Un coup de cœur ciné avec Clara d'Atmosphère 53 et puis l'histoire du billet de banque racontée par Swazik. Mais tout de suite, on va commencer par faire un point sur l'actualité. Trois personnes infectées par le variant anglais de la Covid-19 à Cholet. Une première contamination par le variant anglais dans la région, c'est la première. Il s'agit de trois membres d'une famille résidant en Angleterre venus passer leurs vacances de Noël dans la région de Cholet. Les grands-parents chez qui la famille a été hébergée ont été contaminés. L'un d'eux a dû être hospitalisé au centre hospitalier de Cholet dans une chambre seule au sein d'une unité spécialement dédiée à l'accueil des patients atteints ou suspects de la Covid-19. Passer d'une stratégie de réaction à une stratégie d'anticipation, c'est ce que réclame la Mayonnaise Samia Soultani, vice-présidente de la région des Pays de la Loire. Elle critique, je cite, « l'inertie et la verticalité des décisions gouvernementales qui nous réduit à des spectateurs désarmés ». Au niveau local, Samia Soultani souhaite identifier les centres de stockage potentiels du vaccin, les lieux stratégiques qui serviraient de centres de vaccination, sans compter les hôpitaux, le nombre de professionnels de santé à mobiliser par centre, le vivier de pharmaciens, d'élèves infirmiers et d'étudiants en médecine susceptibles d'être mobilisés pour accélérer la vaccination, et enfin le nombre de cars nécessaires pour amener les Mayennais éloignés des centres de vaccination. Nouvelle mobilisation à Laval pour soutenir les familles menacées d'expulsion. Nous vous en parlions hier midi. Ivan, un jeune Albanais de 22 ans installé à Mayenne, est menacé d'expulsion. Les autorités lui ont réservé un billet d'avion pour l'Albanie demain mercredi. Les bénévoles de Réseau Éducation Sans Frontières organisent un nouveau rassemblement demain mercredi à 14h devant la préfecture à Laval. Un covoiturage est organisé au départ de Mayenne à 13h sur le parking du Grand Nord. Rassemblement aussi devant le lycée professionnel Gaston Lénard qu'Ivan a fréquenté ce mercredi, ce sera à 7h45. Et puis, quand la fête vire au saccage de l'appartement. En plein couvre-feu, une soirée a dégénéré ce week-end à Nuillé-sur-Vicoin, au sud de Laval. Une jeune femme a loué une maison de campagne pour une fête d'anniversaire clandestine. Une trentaine de personnes s'y sont réunies et ont tout saccagé. Les gendarmes sont intervenus à deux reprises. La propriétaire compte désormais porter plainte. Une maison part en fumée à Saint-Georges-Butavant hier soir. L'incendie s'est déclaré vers 21h au lieu-dit La Petite Altière à Saint-Georges-Butavant près de Mayenne. Les flammes se sont propagées au plancher d'une maison d'habitation. Les dégâts ont nécessité le relogement de l'habitant chez sa famille. La population mayennaise reste stable, c'est la conclusion des dernières données publiées par l'INSEE. Au 1er janvier 2018, le département comptait 307 084 habitants précisément. Peu d'évolution par rapport à 2013, mais le ralentissement est net par rapport à la période précédente. Entre 2008 et 2013, la population mayennaise augmentait en moyenne de 4515 habitants par an. En cause, l'accentuation de la baisse de la population, notamment dans les communautés de communes du bocage mayennais, du Mont des Avaloirs, des Couévrons et de Mayenne Communauté. A l'inverse, Laval Agglomération est l'intercommunalité la plus dynamique du département, avec 1430 habitants supplémentaires entre 2013 et 2018. Et puis, on ouvre la page foot aujourd'hui avec des championnats raccourcis cette saison dans la région. Une décision prise hier par la Ligue des Pays de la Loire de football. Elle mise sur une possible reprise le dimanche 14 mars, possible hein, bien sûr. L'objectif sera donc de constituer deux poules de classement, montée ou maintien, à l'issue des matchs aller. Sinon, il faudra recourir au quotient des points comme la saison passée. En parallèle, toutes les coupes régionales et départementales sont annulées. Et puis sur la route du Vendée Globe du changement ce matin, Yannick Bestaven perd la tête du classement. C'est désormais Charlie Dalin qui mène la course près des côtes brésiliennes, suivi de très près par Damien Seguin, puis de Yannick Bestaven à la troisième place. Maxime Sorel, lui, est toujours dixième. Il évolue dans une zone sans vent à quasiment 8 nœuds. 36 000 euros pour rénover l'ancien théâtre de l'Hôtel de Ville à Goron. C'est la somme versée par la mission Stéphane Bern à la municipalité de Goron grâce au loto du patrimoine. Pour participer au financement des travaux de restauration et de rénovation de l'ancien théâtre de l'Hôtel de Ville, construit dans un style art déco, une aide bienvenue pour Gérard Fourré, le directeur général des services de la commune de Goron.
C'est une très bonne nouvelle. On nous avait dit qu'effectivement, ces travaux étaient sélectionnés dans le cadre du loto du patrimoine, mais on ne savait pas ce qu'on obtiendrait de la Fondation Bern. C'est une salle qui est située au premier étage de la mairie, qui servait pour des réunions, qui sert aussi de salle de mariage et qui en fait avait été donc réaménagée il y a maintenant de nombreuses années. Avec un faux plafond qui avait été installé. Et donc, à l'occasion de travaux, parce qu'on savait qu'il y avait un élément intéressant architectural avec une verrière. Suite aux travaux, cette verrière a été redécouverte. C'est une salle qui a été reconstruite dans les années 1920 avec un style art déco, avec des éléments art déco qui sont très très bien conservés. Donc, ça a été une agréable surprise à ce moment-là. Et donc les travaux ont remis en valeur tout le décor art déco et toute cette petite salle qui était à l'ancienne un petit peu salle des fêtes, salle de spectacle, avec une scène, un balcon, des restes de machinerie de théâtre. Aujourd'hui, ça ressemble à une petite salle de théâtre très intimiste et très belle. Alors c'est une salle qui est un peu dans le même modèle que l'Hôtel de Ville, qui est octogonale, avec cet élément qui est très intéressant au niveau du plafond de cette verrière. La commune a décidé de faire une restauration un peu plus poussée que ce qui était prévu au départ. L'objectif est à la fois d'être une salle où se tiennent des réunions telles que conseils municipaux et autres réunions municipales, et également de servir comme salle de spectacle pour des petits spectacles d'environ 80-100 personnes dans cette salle.
Elle pourra aussi faire office de salle des mariages. Les travaux sont quasiment terminés. L'inauguration devrait avoir lieu lorsque les conditions sanitaires le permettront. Au total, le montant des travaux s'élève à plus de 180 000 euros, financé donc par la mission Stéphane Bern, mais aussi par l'État et la Fondation du patrimoine. Pas de réouverture des restaurants avant mi-février. Au plus tôt, quel impact ici en Mayenne ? Éric Joannin, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 53, répond à nos questions juste après ce morceau de Daphonix, Don't Cry For Me.
Oh yeah. Listen baby, I need to tell you my heart. I mean, I don't mean to be mean, but if I'm cruel, I'm sorry, just let me start. I'm getting tired of the way it's getting, the day-to-day, the faking, the making moves, the making rules, the making a fool out of me, but not for long. I changed up my song, I changed up the rhythm, the drama's forgotten, but no, not forgiven. I'm thinking that maybe you don't know the way that I flow. Won't take it if you're faking the funk, I let you go, so baby, don't you play with my heart. I fell in love with you right from the start, so don't go breaking up and all, falling apart. Baby, you can't cry if you wanna, but you better not cry to me. Baby, you can't cry if you wanna, but you better not cry to me. Baby, you walked out, so don't come crawling back to me. Baby, you can't cry if you wanna, but you better not cry to me. It's the bang bang boogie, sit up, jump the boogie to the rhythm of the boogie.
Nope.
Now what you hear is not a test. Get out, girl, and hit that street. So you was running my money, thinking you running my game. This ain't no desperate housewives. You acting insane. These dollars and cents spent quicker than to make them. You motivated to use them. I'm motivated to save them. Y'all really love me. You love my credit card. So when I tell you to leave, it ain't that hard, baby. You can't cry if you wanna, but you better not cry to me. Baby, you can't
can cry if you wanna, but you better not cry to me. Baby, you walked out, so don't come crawling back to me. Baby, you can cry if you wanna, but you better not cry to me. I gave you everything you ever wanted and never needed. Defeated your fears, I gave you my ears and dried away your tears. And now you're looking at me like you don't know my name. Like I didn't hold your hand when you walked through the flame. Like I didn't pay the price for not repairing your shame. You about to get it, forget it, girl. You take it, won't quit it. This rope, I won't fit it. This life, I can't live it. Nope, I can't spend it. Forget it, don't come back with it. Listen, you got to step, I'm tired of it. Baby, you can't cry if you wanna, but you better not cry to me. Baby, you can't cry if you wanna, but you better not cry to me. Baby, you walked out, so don't come crawling back to me. Baby, you can't cry if you wanna, but you better not cry to me.
Ça fait du bien aux oreilles, c'est donc Da Phoenix, Don't Cry For Me. Vous écoutez toujours l'agité du local sur l'autre radio et ça y est, on a retrouvé Claire. Bonjour Claire.
Mais bon, je suis là, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé le chemin. Bonjour oui, tout le monde.
Bonjour Claire, c'est vrai que forcément avec nos petits soucis technologiques, bah oui, en visio, mais on se débrouille en tout cas et on t'a retrouvé, c'est le plus important. Alors je sais pas si toi ça te manque Claire, mais en tout cas c'est pas possible hein, d'aller au restaurant, en tout cas au moins jusqu'à mi-février, on le sait. Hein, donc pas possible, hein, pas de restaurant entre amis ou en famille avant mi-février, on l'a dit. C'est l'une des annonces faites par le Premier ministre Jean Castex la semaine dernière. Les restaurants ont donc leurs portes closes depuis fin octobre, une situation qui commence à peser sur les établissements mayennais. Mais pour Éric Joannin, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Mayenne, cette annonce n'avait rien d'une surprise.
En toute honnêteté, on s'y attendait un petit peu quand même. Hein. Par rapport au deuxième confinement, fin octobre, on s'est dit qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année, il va y avoir des groupements de familles. Et puis on s'est dit jamais on sera ouvert le 20 janvier. Donc on dit maintenant pas avant, je ne sais pas, pas avant mi-février. Donc ça veut dire peut-être mars. Hein. Après, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux vraiment ouvrir par exemple le 4, 5, 6 mars et puis c'est terminé. Bon, après c'est terminé, il n'y a plus de fermeture quoi.
Oui, vous avez peur un peu qu'il y ait cette alternance de confinement-déconfinement, c'est pire pour vous ?
Le problème, c'est que c'est pénible pour tout le monde, quoi. Pour nous, parce qu'il faut quand même de la mise en place, il faut faire les cartes, tout ça. Tout notre personnel, nos collaborateurs, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que je fais ? C'est pénible pour tout le monde, hein. Et même pour les clients aussi.
Parce que là, justement, ce qui doit être difficile, donc au-delà de la situation qu'il est déjà en tant que telle par la fermeture, c'est l'incertitude de ne pas savoir du tout comment vous organiser.
Ah oui, c'est certain. Là, on fait des livraisons, on fait du click and collect, comme on dit. Nous, personnellement, on a tout refait notre site internet depuis le début du deuxième confinement. Et puis voilà, quoi, il faut être au goût du jour, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, il faut être à fond, il faut préparer ses menus, mais il y a déjà beaucoup de restaurants qui le font, hein, il a compris. Hein.
Et peut-être que là, du coup, le confinement a accéléré un petit peu tout ça, cette mouvance-là,
oui,
on va dire.
En plus, c'est certain. Ah oui, c'est le restaurant qui est pas au goût du jour, si je peux me permettre, ça va être compliqué après. Hein. Parce que je préfère après, vous avez des clients qui prennent des habitudes de consommation. Et après, est-ce que notre métier va être complètement chamboulé à cause de ça aussi, hein. On se pose beaucoup de questions, comment on s'organise après le confinement. Est-ce qu'on continue à faire des plateaux repas? Il y aura plein d'interrogations après. Hein. Et puis après, sans non plus notre sujet aussi qu'on peut aborder, c'est l'état de le moral de nos salariés aussi. Hein. Parce que pareil, ça aura fait comme 7 mois, c'est ça, ou 7 mois de chômage partiel. Le temps risque d'être long, ils trouvent le temps long aussi. Hein. Est-ce qu'il faut qu'ils retrouvent la motivation, tout ça aussi, hein, il faudra y penser.
Oui, il y a déjà l'aspect financier forcément, et oui, après tout cet aspect psychologique aussi de motiver les troupes et continuer à espérer quand même, c'est compliqué, j'imagine.
Après, le problème, c'est qu'on a il y a toujours quelque chose qui nous tombe sur le dos, quoi. Là, après, c'est la variante anglaise, il est où partout, il va y avoir la vaccination, on commence par le 75 ans, après, c'est... Je pense que tant qu'une bonne partie de la population ne sera pas vaccinée, ça va être compliqué de réouvrir, quoi. Je pense, hein, après, voilà, quoi, oui. Après, il va y avoir les vacances de février, les gens vont se regrouper, les vacances de sport d'hiver, malgré les stations qui sont fermées. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport au premier confinement, si vous préférez. Premier confinement, on savait qu'on allait ouvrir le 2 juin, si ma mémoire est bonne. Tout était confiné, personne ne bougeait, tac. Mais dès que là, c'est différent.
Et vous comprenez en tout cas faire partie quand même des, entre guillemets, derniers de la liste, c'est-à-dire vraiment les endroits qui probablement vont réouvrir dans les derniers, avec d'autres, bien sûr.
Oui, mais enfin, vous regardez, depuis qu'on est fermé, le cluster, enfin, les contaminations existent toujours, donc c'est pas notre faute à nous, personnellement, le CHR, que les gens sont contaminés. Donc ça prouve bien que c'est pas dans nos restaurants, dans nos bars, je parle généralement, que les contaminations se font, quoi. Ça se regroupe dans les cellules familiales, voilà, quand même, bien souvent.
Et donc, justement, en tout cas, avec la situation actuelle, vous ne pouvez faire que de la vente à emporter. Est-ce que ça limite la casse, quand même, pour l'ensemble des restaurants de la Mayenne?
Après, oui, c'est, un, ça limite la casse, et ça nous permet aussi de garder toujours le contact avec le client, avec... voilà, il faut se maintenir... Puis c'est pour nous aussi, parce que si vous, pendant 2-3 mois vous faites rien, vous laissez tomber, quoi. Moralement, ça, on en prend un coup aussi, hein. Alors, c'est pour ça qu'on est tenu, nous, personnellement, de faire tout le temps des la vente à emporter, quoi.
Et par exemple, vous-même, par rapport à votre restaurant, c'était quelque chose qui était déjà mis en place ou c'est une nouveauté depuis quelques mois?
Ah ben, on a toujours eu plus ou moins en place, mais bon, au premier confinement, on l'a fait dès le départ. Pendant les intermédiaires, on va dire ça comme ça, on faisait tout le temps, bon, il y en a qui demandaient, on faisait, mais là, dès le 31 octobre, mais de suite, on s'est mis à faire des plateaux repas, de suite, on n'a pas perdu de temps, si vous préférez.
Il y a eu aussi cette dynamique au niveau des autres restaurants, de se dire, bon, bah, allez, là, on y va, de toute façon, c'est une possibilité.
Ah oui, c'est que ça sur Laval ou dans aux alentours, oui, il y en a beaucoup qui sont mis, parce que je préférais, ça fait de la trésorerie pour payer, l'électricité, pour payer le gaz, pour payer toutes ces assurances, pour payer tout ça, quoi. Ça permet de faire un petit peu un fonds de trésorerie quand même. Au lieu d'avoir zéro, ben vous avez 4, 5, 6, 7, 8, voire 10 000 euros de plus, quoi.
Et au niveau financier, justement, est-ce qu'il y a déjà des fermetures de restaurants, en tout cas certains qui sont vraiment très mal en point?
Alors, si vous préférez, on a quand même des aides. Donc, il y a tout le chômage partiel. On touche bien souvent, pour tout le monde, je pense, les 10 000 euros. Il y a des communes, enfin, je vois Laval Agglo, ils ont aidé aussi. Je pense que, voilà. Après, on a chacun des cas particuliers, je dirais. Et chacun, il faut que, si jamais ils sentent que c'est pas bon, que ça sent, entre parenthèses, le roussi, il faut pas qu'ils hésitent à contacter les services des impôts, les services de l'URSSAF, tous les services de service public, pour justement, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, avant que ce soit trop tard. Parce que si c'est trop tard, c'est trop tard. On va pas. Donc là, si jamais on sent que c'est pas bon, faut pas hésiter, aller devant les services.
Éviter, en tout cas, comme vous disiez, avant qu'il soit trop tard. Donc là, pour l'instant, les aides limitent un peu ça, mais ça va dépendre peut-être aussi des semaines et des mois qui viennent.
Ah, ben oui, c'est certain.
Et justement, vous disiez que ça pouvait aussi, lorsqu'il y aura un vrai déconfinement, changer la façon de voir votre métier, d'exercer votre métier. De quelle manière?
Ben, si vous préférez, les gens, est-ce qu'ils ne vont pas prendre l'habitude de faire des plateaux repas, déjà? Enfin, des plateaux repas du click and collect, je parle généralement, hein. Ça aussi, est-ce que les gens ils vont revenir directement, est-ce qu'ils vont dire bon là on va être prudent, donc il faut continuer à faire des plateaux repas, il y aura beaucoup d'interrogations, quoi. Après on va arriver vers le printemps, donc Je sais pas. Je sais pas comment comment ça se goupille cette fin de confinement, mais on espère que ce soit rapidement maintenant, quoi. Parce que je parle de nous, puis après je parle pas de l'événementiel aussi, tout ce qui est les parties traiteurs, les parties, tout ce qui est mariage, tout ce qui est les foires de que vous savez, les je sais pas, les entreprises qui se voilà, que il faut que ça se termine rapidement, quoi. Parce que même les boîtes de nuit, ça fait un an de fermeture administrative, un an. Donc un an, c'est avec zéro, enfin avec des aides, mais c'est zéro chiffre d'affaires là.
Mais en tout cas, dans ce contexte, vous espérez une réouverture totale peut-être au printemps, en avril. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez ou qu'est-ce que vous espérez plutôt.
Ben, j'espère qu'avoir une ouverture franche, quoi. Alors, on ouvre, c'est terminé. On parle plus de confinement, de ce que vous voulez. Donc il vaut mieux ouvrir, oui, comme vous dites, le 1er, voire le 15 mars, mais que ce soit terminé, quoi. On n'en parle plus, quoi. Tout ce Covid, cette année qu'on vient de passer, 2020, qu'elle soit vraiment derrière nous, et puis voilà, qu'on n'en parle plus, et puis on attaque 2021. Enfin, on aura déjà mangé un trimestre quand même, il n'y a rien au mois de mars. Hein.
Même quitte à avoir là aussi des mesures barrières assez strictes, comme ça avait été le cas cet été, par exemple.
Oui. Mais après, si on s'organisera, vous inquiétez pas, on sait s'organiser. Mais c'est vrai que il y aura, je pense, certainement débattu d'un protocole qui va être mis en place, vous savez, enfin, poursuivre le masque, tout ça. À mon avis, on n'est pas prêt de ne pas porter le masque, à mon avis. Quand on pense que début 2020, ça aurait dû être une année exceptionnelle pour tout le monde, je parle pour tout le monde, mais là, c'était une catastrophe pour tout le monde.
Donc là, 2021, on va dire plutôt, vous misez sur le deuxième trimestre, en quelque sorte.
Ah ben, si déjà mois de mars, c'est déjà en février, bon, c'est que c'est mort. Mars, tant que ça se mette en place. Oui. Comme je dis, je préfère qu'on retarde de 15 jours, mais qu'on fasse une ouverture franche, quoi.
Pour pouvoir peut-être enfin voir le bout du tunnel et vous pouvoir projeter.
Ah oui, c'est certain, parce que on peut pas non plus ouvrir comme ça. Je préfère pour un restaurant qui se rouvre. On a besoin quand même d'une petite semaine, quand même de mise en place. Il faut que les fournisseurs, si ça arrive à ça, comme ça s'appelle, les fournisseurs, même les agriculteurs, tout ça, les producteurs. Et voilà, faut penser, ils vont ouvrir, donc il faut rebalancer la machine, comme on dit, et puis que tout le monde se mette en place. Il faut minimum une semaine de mise en place. Hein. Ça, c'est pas un claquement de doigts. Hein. Ça, c'est pas un claquement de doigts, la mise en place. Hein. Faire du nettoyage, faire du rangement, il faut revoir les cartes, il faut... Oui, ça se fait pas en deux minutes.
Le prochain point du gouvernement sur la situation sera le 20 janvier, date à laquelle les restaurateurs y verront peut-être, on l'espère pour eux, un peu plus clair. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'une petite pause musicale assurée par The Inspector Clouseau avec leur morceau « The Best ».
There are some races we can't win. There are some roads we can't see. All our life we have to be the best. There's just one road we're supposed to be on. There are some games you can win. There are some faces we can remember. All our life we have to be the best. There's just one road we're supposed to be on.
There's just one road we're supposed to be on. There's just one road we're supposed to be on.
There's just one road we have to be on. There are some roses we can't see. There are some faces we can't remember. All our life we have to be the best.
just one road we're supposed to be on. It's just one road we're supposed to be on. It's just one road we're supposed to be. It's just one road we have to be on. Some of the faces got lost in the wind. All our life we had to be the best. Just one down road for us to be on.
The Best, The Inspecteur Clouseau sur l'autre radio. Vous écoutez comme tous les midis, du lundi au vendredi, l'agité du local. Et on reprend les bonnes habitudes prises avant les vacances, les vacances de Noël, tout comme les restaurants. On en parlait juste avant, les salles de cinéma restent fermées. Mais vous le savez, ça n'empêche pas de profiter de bons films chaudement recommandés par l'équipe d'Atmosphère 53. On retrouve aujourd'hui Clara.
Le deuxième coup de cœur est celui de Noélie Niel, volontaire en service civique chez Atmosphère 53, qui nous présente Perdrix de Erwan Leduc. Juliette Webb, personnage haut en couleur, débarque dans un commissariat pour déposer plainte et qu'on l'air d'avoir retrouvé sa voiture volée. Tandis que le capitaine de la gendarmerie, Pierre Perdrix, lui explique très sereinement que ces vols sont courants dans la région et qu'ils sont pratiqués par une communauté nudiste, Juliette décide de retrouver sa voiture seule, ne croyant pas à l'enquête qui sera menée par les gendarmes. Au tempérament et façon de vivre totalement opposés, Juliette et Pierre sont pourtant liés dès leur rencontre par une certaine connexion, même s'il n'est définitivement pas question de la qualifier comme une histoire d'amour. Ce qui frappe au premier lieu dans Perdrix, ce qui nous émerveille, c'est son esthétique, tant par sa bonne son que par sa photographie. Chaque plan est très travaillé, la disposition des objets et des décors sont impeccables et les couleurs sont douces et vives à la fois, à l'image des personnages. La musique originale, composée par Julie Rouet, offre au long métrage un rythme contenu et haletant, qui nous embarque complètement. Quant aux musiques additionnelles, très variées, parmi lesquelles Niagara côtoie Vivaldi. Outre les personnages, nous sommes véritablement charmés par leurs interprètes, même si Juliette Webb, sublimement interprétée par Maud Wheeler, joyeuse émancipée depuis l'âge de 16 ans, vagabonde, sans attache et cynique, nous apparaît peut-être comme le personnage le plus antipathique au début du film. C'est pourtant elle qui va venir dynamiser le quotidien morose des autres personnages. Maud Wheeler et Swan Harlow forment un duo où les stéréotypes de genre sont bouleversés et les contours de l'histoire d'amour totalement flous. Autour d'eux, ou plutôt avec eux, on retrouve notamment Nicolas Maury dans un rôle assez inattendu de père, frère et fils de la famille Perdrix, dont le quotidien routinier semble terriblement les ennuyer. Les collègues du capitaine Pierre, joués par Swan Harlow, sont tous également très attachants. Je pense notamment à Alexandre Stinger en gendarme et ami fidèle. Bien que plutôt inclassable, ce film est souvent référencé comme une comédie, à raison puisque l'humour est bien présent dans ce film. Le rire est souvent provoqué par l'absurde de la situation, telle que la reconstitution de la guerre tenant place dans le village où se joue l'intrigue, donnant lieu à des scènes totalement incongrues. Mais aussi par sa banalité, voire l'ennui du quotidien des personnages, souvent mis en avant par les dialogues et les réactions du personnage interprété par Maud Wheeler. Le plus touchant dans ce premier film d'Erwan Leduc, c'est finalement son originalité. Alors que le réalisateur réussit un long métrage dans lequel chaque aspect est totalement maîtrisé, pas un seul instant l'ennui ne pointe le bout de son nez, bien au contraire. Que vous l'ayez découvert dans le rôle du personnage désormais culte d'Hervé dans la série 10% ou par le biais de cette tendre comédie d'Erwan Leduc, vous pourrez retrouver, on l'espère, l'univers de Nicolas Maury dans son premier film Garçon chiffon, cette comédie dont le réalisateur tient le premier rôle, accompagné de Nathalie Baye et Arnaud Valois, notamment, nous livre un récit, proche de l'autobiographie, sur les conditions des acteurs. Dès qu'il sera possible de regagner les chemins des salles obscures, nous vous invitons alors à venir voir ou revoir, puisque le film est déjà sorti au cinéma quelques jours avant l'annonce du confinement, Garçon chiffon de Nicolas Maury. Perdrix est quant à lui disponible gratuitement pour les abonnés d'une bibliothèque ou médiathèque de la Mayenne, ou disponible à partir de 4,99€ sur Univers Ciné.
C'est bien noté Clara, merci beaucoup, et à mardi pour une nouvelle recommandation cinéma. Des objets pour un monde, c'est l'histoire d'objets symboles de la mondialisation, de leur origine jusqu'à aujourd'hui, des petites histoires méconnues dénichées tous les jours par Soizic. Bonjour Soizic, vous voici de retour pour une nouvelle chronique des objets pour un monde, et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par une devinette.
Eh oui, bonjour Marie. Savez-vous quel objet du monde a le plus de valeur tout en n'en ayant quasiment aucune ? Non ? Eh bien, il s'agit tout simplement du billet de banque. C'est en effet certainement l'objet le plus partagé dans le monde que l'on accepte pour une valeur qu'il n'a absolument pas. Alors, dit autrement, ça veut dire que je peux acquérir un bien qui vaut 500€, mais avec un simple bout de papier, le billet de 500€, un papier qui ne fait que représenter 500€, mais dont la valeur, que l'on dit intrinsèque, est quasiment inférieure à 10€. Le coût de fabrication n'est pas très important. Alors, comment c'est possible ça ? Eh bien, c'est parce que nous avons tous confiance dans la valeur que l'on appelle faciale, c'est-à-dire la valeur qu'affiche le billet. Et c'est d'ailleurs pour cela que les billets, on les appelle les monnaies fiduciaires, parce que fiduciaire, ça vient du latin fiducia, qui signifie confiance. Alors, aujourd'hui, une monnaie sous forme de billet semble évidente, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque l'histoire du billet est finalement assez récente. Jusqu'au XVIIe siècle, dans le monde entier, ce sont surtout les pièces métalliques qui ont cours et qui permettent les transactions commerciales. On en a les reliquats aujourd'hui que l'on appelle la monnaie divisionnaire. Et puis, devant l'inconfort du transport du métal, eh bien, à partir du XIXe siècle, dans le monde entier et quasiment en même temps, les billets vont être utilisés. Alors, à partir des années 30, la fabrication des billets relève exclusivement des États, ce qui est là encore une façon, de façon quasi concomitante dans le monde entier, des États qui vont bien sûr s'empresser d'utiliser ce média, tout trouvé, pour raconter le roman national. On y retrouve l'effigie des grands hommes, comme Washington sur le billet de 1 dollar, ou la reine d'Angleterre sur la livre sterling, ou bien encore les symboles des États, par exemple le billet chinois de 50 yuan qui affiche Mao sur son recto et le palais du Potala de Lhasa, capitale du Tibet, sur son verso, au cas où les Tibétains oublieraient qu'ils sont citoyens de l'Empire du Milieu. Alors, à ce propos, on peut d'ailleurs s'interroger sur les symboles de nos euros à nous, qui évoquent les styles architecturaux de l'histoire européenne, mais qui finalement ne présente aucun ouvrage existant réellement. Une lecture critique interroge sur la représentation de ces portes et fenêtres ouvertes sur du vide finalement, et de ces ponts qui au final ne relient rien. C'est vraiment pas facile les symboles au final, Marie. Quoi qu'il en soit, qu'il soit vert, bleu, rouge, qu'il soit grand, qu'il soit petit, le billet de banque réussit le tour de force d'être un pur produit national des États et en même temps l'objet dont l'usage est certainement le plus international et le plus essentiel dans le grand magasin du monde.
Merci beaucoup Soizic pour cette petite histoire du billet de banque et on vous retrouve évidemment demain. On termine cette édition avec notre rubrique initiative proposée par Claire. Et on parle aujourd'hui d'un rendez-vous en fin de journée pour les Lavallois et les Lavalloises, Claire.
Et oui, rendez-vous à 18h30 pour rencontrer Florian Berco, le maire de Laval, vous propose un temps d'échange via un direct sur Facebook. Il répondra à toutes vos questions en direct donc, et vous pouvez les poser dès à présent sur le compte Facebook de la ville, Laval, la ville. D'ailleurs, on y retrouve déjà des questions sur le ramassage des encombrants, des rampes d'accès sur pour les cyclistes et le financement de la SPA par exemple. Rendez-vous donc à 18h30 pour, on l'espère, avoir toutes les réponses.
Oui, on se doute que les questions vont être nombreuses. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre ce Facebook Live en cours, n'hésitez pas. En tout cas, c'est à partir de 18h30 pour être sûr d'avoir plus de chances en tout cas d'avoir des réponses et de pouvoir y accéder. On reste dans le monde virtuel, mais cette fois-ci pour toute autre chose, puisqu'on parle d'un concert, Claire.
Et oui, et pas n'importe lequel, celui de plus de 275 musiciens. Ce sont les 11 collèges de la Mayenne qui ont réuni leur classe orchestre pour un concert virtuel du Nouvel An. Chaque classe a enregistré et filmé sa performance avec son professeur et donc son public de son côté fin décembre 2020. Mis bout à bout, il y en a en tout 17 morceaux qui vont de Dance Monkey à New York, New York. La vidéo finale est à retrouver en ligne sur le compte YouTube Association Orchestre à l'école.
Et puis on peut tenter sa chance pour gagner un livre de recettes.
Et oui, vous avez jusqu'à demain, mercredi 13 janvier, pour tenter votre chance de remporter le livre « Du jardin à l'assiette ». 26 chefs, 26 producteurs locaux et autant de recettes, le tout réalisé par le chef emblématique du relais du Gué en Selle à Mésangers, Didier Péchard. Pour participer au tirage, il faut répondre à la question suivante. Quel célèbre chef a félicité Didier Péchard pour la promotion du terroir mayennais ? Vous avez la réponse, rendez-vous sur le site lamayenne.fr.
Mais je crois que j'ai vu l'info passer, donc bon, évidemment, je ne vais pas, donner la réponse, mais oh, je pense que certains d'entre vous la connaissent aussi. Merci beaucoup Claire, en tout cas. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux pour nous retrouver sur Facebook et Twitter. Nom du compte, évidemment, on a fait au plus simple l'autre radio. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos initiatives, vos idées ou un petit message, enfin ce que vous avez envie de partager à l'antenne sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Il est midi 52 désormais, c'est la fin de notre émission L'Agité du local. Et merci Claire d'avoir été avec nous, même si tu nous as rejoint en cours, c'était sympa. Merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous.
Intense.
Exactement. À suivre à 19h, l'Instant Jeune qui vous propose d'anticiper vos choix d'orientation scolaire et professionnelle grâce à divers intervenants. À 20h, ce sera The Voice of Cassandre, puis à 21h, votre émission rap et hip-hop Frères de Chaussures. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.